C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. En votre compagnie, Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a prévenu que la pandémie continuait à s'aggraver dans le monde, notamment aux États-Unis, où un niveau record de nouveaux cas a été atteint mercredi, avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Dans ce pays, des plages et salles de restaurants referment pour cause de contaminations galopantes dans certaines régions. À l'approche du long week-end de la fête nationale du 4 juillet, traditionnellement marqué par des réunions familiales et des rassemblements pour assister aux feux d'artifice, les autorités locales ont souvent décidé d'agir pour tenter de reprendre le contrôle de l'épidémie. Le président Donald Trump, dont la gestion de la crise a été critiquée, s'est néanmoins dit mercredi convaincu que le coronavirus allait simplement disparaître en certains moments. Au seuil de l'été, les Européens ont, eux, rouvert ce mercredi leurs frontières aux voyageurs de 15 pays dont la situation épidémiologique est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages. Les critères retenus excluent notamment les États-Unis, mais incluent en Afrique l'Algérie, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie. Le Sénégal a annoncé mercredi qu'il ne rouvrirait pas son espace aux voyageurs en provenance de pays qui ne procéderaient pas de même avec lui, après avoir été tenu à l'écart d'une réouverture par l'Union européenne de ses frontières. La pandémie de coronavirus continue de progresser dans ce pays qui a déclaré près de 7000 cas de contamination et 116 morts depuis le 2 mars. Au Mali, le mouvement de contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta ne ferait plus de sa démission un préalable à un dialogue avec le pouvoir pour sortir d'une crise politique qui alarme les alliés du pays en guerre. Le mouvement, dit du 5 juin, a certes persisté à dire que le président Ibeka devrait quitter le pouvoir, mais il a affirmé son esprit d'ouverture au dialogue. Et la démission de M. Keïta ne figure pas dans une liste d'exigences communiquées lors d'une conférence de presse. En tête de ces demandes, la dissolution du Parlement et la formation d'un gouvernement de transition dont le mouvement désignerait le Premier ministre que le président ne pourrait pas démettre. L'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson présidera le panel d'experts chargé de l'enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre le président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina, seul candidat à sa réélection, selon un communiqué publié hier soir. Les deux autres membres du panel, le juge Hassan Bi Diallo et Leonard McCarthy, sont à Addis Abad, des personnes ayant une expérience et une intégrité professionnelle incontestables, ainsi qu'une réputation internationale avérée. L'ancien émissaire spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, s'en est pris hier au Conseil de sécurité, dénonçant ce qu'il a appelé l'hypocrisie de certains de ses membres, qu'il accuse de l'avoir poignardé dans le dos, et ce dans le cadre du dossier de la crise libyenne, plus que jamais dans l'impasse. Deux autorités rivales s'affrontent en Libye, le GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Dans un entretien avec le Centre pour le dialogue humanitaire, Ghassan Salamé a dit « Je n'avais plus aucun rôle ». Car le jour où il a attaqué Tripoli, Haftar avait le soutien de la plupart d'entre eux, alors qu'on était critiqué en Libye pour ne pas l'avoir stoppé, a-t-il lâché d'un rire ironique.
En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a gracié hier soir 6 détenus, dont quelques-uns liés au mouvement de protestation du Irak, selon une association de défense des détenus d'opinion. La présidence algérienne a fait état de cette mesure de clémence dans un communiqué.
La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé une grâce pour les prisonniers à l'occasion des 60 ans d'indépendance du pays, sauf pour les crimes imperceptibles. La mesure s'applique par exception aux condamnés pour l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, père de son successeur Joseph Kabila. Le point avec Eddy Issangou.
Le colonel Idi Kapende et quelques co-accusés condamnés pour l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila en 2001 sont parmi les bénéficiaires de la mesure présidentielle. Leur cas est une exception car la remise, la réduction et la commutation de peine selon les cas annoncés par M. Tshisekedi ne concernent pas des crimes imperceptibles. Kapende et consorts voient leur peine de mort commuée en prison à perpétuité. Des proches de Kabila ont révélé que la famille de Kapende a récemment écrit pour demander clémence à l'ancien président et à sa famille. Par la suite, il pourra bien être question d'une grâce présidentielle pour ces condamnés qui ont déjà passé 19 ans en prison. Un avocat après la cour d'appel de Gombe a confirmé cette démarche à VOA Africa. L'ordonnance accorde une remise à des personnes qui avaient 5 ans de travaux forcés. Elle réduit de 5 ans la peine de servitude pour ceux qui en avaient plus. Elle transforme en emprisonnement pour 20 ans les condamnés à des travaux forcés. Vital Kamerhe, qui vient d'être condamné à 20 ans de travaux forcés, n'est pas concerné par cette mesure.
Au moins 81 personnes ont été tuées en Éthiopie depuis le début des manifestations déclenchées par la mort d'un célèbre chanteur de l'ethnie majoritaire Oromo. Eric Manirakiza fait le point.
Fondateur du média d'opposition oromien Media Network, basé aux États-Unis et qui diffuse principalement via Facebook, Jawar Mohamed a été arrêté hier à Addis Abeba avec 34 autres personnes, a indiqué le chef de la police fédérale, Endacho Tasseou. Son arrestation a fait suite à une altercation avec la police au sujet du corps d'Achalu Undessa, un célèbre chanteur de l'ethnie majoritaire Oromo, tué par balle lundi soir à Addis Abeba. Ce décès a provoqué des manifestations hier en Oromia qui ont débouché sur des violences. Des sources médicales et locales parlent de 8 morts, tandis que l'agence Reuters avance la mort d'au moins 50 personnes. Achalu Undessa avait été un des porte-voix des Oromo lors des manifestations antigouvernementales en 2018. Le mobile de son meurtre n'est pas encore connu. Le chef de la police d'Addis Abeba, Ghetto Argao, a déclaré que des suspects ont été arrêtés. Le premier ministre Abiy Ahmed a appelé au calme et exprimé sa peine profonde sur Twitter, décrivant Achalu comme un jeune artiste rayonnant. Même si M. Abiy est le premier chef de gouvernement Oromo de l'histoire moderne, de nombreux nationalistes Oromo l'accusent de ne pas assez faire pour défendre les intérêts de sa communauté. L'arrestation de Jawar Mohamed pourrait exacerber les tensions en Oromia.
La France demande qu'un ex-patron de l'audiovisuel public camerounais, Amadou Vamulke, accusé de détournement de fonds publics et détenu depuis près de 4 ans, puisse bénéficier d'un procès équitable, Nathalie Barge.
Nous sommes très attentifs à la manière dont tout cela va se dérouler, a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Amadou Vamulke, qui dirigeait la radio-télévision nationale du Cameroun depuis 2005, a été arrêté en 2016. Selon Reporters sans frontières, il est poursuivi pour des crimes économiques jamais établis par l'accusation. Jean-Yves Le Drian s'est aussi dit choqué du décès en détention d'un autre journaliste, Samuel Ouazizi, et a dit avoir demandé une enquête indépendante aux autorités camerounaises. Plusieurs ONG demandent également une enquête approfondie et impartiale sur le décès de Ouazizi pendant sa détention et dont la mort n'a été révélée que 9 mois plus tard.
La Minute Écho et Kiabat.
Au Cameroun, le prix du kilogramme de fèves de cacao est passé de 1200 francs CFA le kilogramme dans certaines régions à un maximum de 1100 francs CFA depuis le 30 juin. Cette baisse peut être consécutive à la fin de la période des achats caractérisée par une chute de la demande, les broyeurs et autres exportateurs ayant été particulièrement dynamiques au cours des derniers mois, y compris pendant la saison des pluies. La banque africaine Coris Bank International va s'implanter bientôt en Guinée avec ce nouvel instrument d'un capital de 10 milliards de francs CFA. Le groupe Coris poursuit sa politique d'expansion après l'ouverture d'une succursale au Niger et le lancement de Coris Mesofinance. Le groupe est maintenant présent dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont 7 de l'UMOA. American Airlines a recommencé mercredi à remplir ses avions à pleine capacité, abandonnant certaines précautions contre le Covid-19, ce qui suscite la réprobation des autorités sanitaires face à une recrudescence de la pandémie aux États-Unis. Si d'autres grandes compagnies américaines telles que Delta Airlines avaient décidé dès le mois de mai de bloquer des sièges pour respecter la distanciation sociale, d'autres comme United Airlines n'avaient pas pris de telles mesures.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. 6 joueurs du FC Dallas ont été testés positifs au nouveau coronavirus à leur arrivée à Orlando pour participer à la phase finale de la MLS. Le tournoi de reprise du championnat américain de football doit débuter le 8 juillet. Après presque 4 mois d'interruption, les 26 équipes devront rester à Disney World, isolées du monde extérieur et jouer leurs matchs sans spectateurs. Aucun autre club de la MLS n'a été en contact avec les joueurs de Dallas depuis leur arrivée, a précisé la MLS. La Floride connaît une recrudescence de l'épidémie ces derniers jours. En plus du tournoi de reprise de la MLS, cet État doit aussi accueillir la fin de la saison de la NBA à partir du 30 juillet. L'édition 2019-2020 du championnat de football du Ghana est annulée. Le conseil exécutif de la Fédération ghanéenne de football a pris cette décision au terme d'une réunion marathon. Selon le site internet de la CAF, les clubs ont déjà joué 15 matchs sur 34 et les Adwana Stars menaient le championnat d'un point quand il a été arrêté à la mi-mars. Conséquence de cette annulation, la Fédération ghanéenne a décidé de conserver les mêmes représentants que l'an dernier dans les compétitions continentales. Ashanti Kotoko disputera donc en 2020-2021 la Ligue des champions qu'elle a déjà remportée 2 fois, alors que Ashanti Gold jouera la Coupe de la Confédération. En Côte d'Ivoire, les doutes sur la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football ont été levés. Je marque mon accord pour la tenue de cette AGO à la date et au lieu indiqués, souligne un courrier réponse du ministère des Sports. L'assise aura lieu le 4 juillet prochain à Yamoussoukro. Abidjan étant toujours soumis à des règles strictes pour la lutte contre la propagation du coronavirus, cette Assemblée générale permettra de désigner la commission électorale avant l'Assemblée générale élective programmée le 5 septembre. En athlétisme, la Fédération russe n'a pas payé à temps une amende infligée par la Fédération internationale pour violation des règles antidopage. Malheureusement, cet argent n'a pas été trouvé, a affirmé le président de Roussaf, Evgeny Irchenko, précisant que les négociations avec la Fédération internationale d'athlétisme se poursuivent. La Roussaf avait jusqu'au 1er juillet pour payer cette amende de 5 millions de dollars imposée en mars par World Athletics. En cas de non-paiement, dans les délais impartis, son quota de 10 athlètes russes autorisés à participer aux Jeux de Tokyo en 2021 sous bannière neutre est théoriquement suspendu, évoquant un manque de ressources financières. Evgeny Irchenko a dit espérer du bon sens de la part du World Athletics compte tenu du coronavirus et de la situation économique difficile dans le monde.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, à plus de 4 mois de la présidentielle américaine, le président Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden sont à l'assaut des électeurs. Une campagne qui se tient alors que les États-Unis continuent d'être le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19. À quelques semaines des conventions républicaines et démocrates, la gestion de la pandémie, l'économie et la question raciale semblent dominer les débats. Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 2 juillet 2020 à 19h30 sur VOA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, à 5 mois des élections générales, les partis de l'opposition exigent la démission des membres de la Cour constitutionnelle et la dissolution de la CENI. Autre exigence, la reprise du code électoral non consensuel selon eux. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
L'exigence de la démission des membres de la Cour constitutionnelle résulte, selon les différents fronts de partis de l'opposition, de la dernière décision de la dite Cour dans laquelle elle indique que le fichier électoral biométrique, même rendu sans les listes des Nigériens de la diaspora, reste valide. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré qu'elle ne pouvait pas enrôler les Nigériens de la diaspora du fait de la fermeture des frontières pour cause de la maladie à nouveau coronavirus. Madame Bayar Mariamaga Mathieu, présidente d'un des fronts des partis de l'opposition.
La Cour constitutionnelle, saisie pour avis en interprétation, s'est délibérément autorisée à prendre un arrêt en violation grossière des dispositions de l'article 133 de la Constitution. La Cour s'est donné le pouvoir de fonder sa décision sur une notion inexistante dans notre Constitution, à savoir la force majeure. Une telle désinvolture dénote clairement de la complicité de la Cour constitutionnelle d'avec le pouvoir en place, comme sa politisation à outrance et son caractère monocolore le laissaient croire depuis longtemps. La Cour constitutionnelle se serait-elle rendue coupable de forfaiture ?
La reprise du code électoral et la dissolution de la CENI sont de vieilles exigences de l'opposition depuis le début du processus électoral. Au niveau de la majorité au pouvoir, l'on estime qu'aucune des raisons avancées par l'opposition politique ne tient la route. Boubacar Sabo, secrétaire aux élections du PNDSTARIA, le parti au pouvoir.
Pour ce qui est de la CENI, je pense qu'on ne peut pas avoir une CENI qui est aussi favorable à la transparence des élections que celle-là, parce que tous les partis ayant des candidats aux élections législatives seront présents au niveau des CENI départementales, régionales et communales. Tous les candidats aux élections présidentielles auront un représentant au niveau de la CENI nationale, même si il y a déjà les 5 de la majorité, 5 de l'opposition. Donc d'un point de vue institutionnel et fonctionnel, je ne vois aucun argument qui milite à la dissolution de la CENI ni une reprise du code électoral. Maintenant, pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, je pense que c'est par pur mimétisme. Ils ont entendu qu'au Mali, on a demandé la démission de la Cour constitutionnelle. Bon, comme l'opposition nigérienne est tellement mimétique, donc je pense que c'est la seule raison pour laquelle cette opposition a demandé la dissolution de la Cour constitutionnelle.
Les partis politiques de l'opposition disent s'engager pour mener des actions légales pour faire aboutir leurs exigences afin d'obtenir des élections transparentes et sincères dont les premières, selon le chronogramme de la CENI, sont prévues au début du mois de novembre. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, controverse autour du bilan de la première année au pouvoir du gouverneur de la province Karli Zanzu Kasivita, issu de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. Dans les rues de Goma, les avis restent partagés, mais les députés de l'opposition juge ce bilan négatif et envisage d'interpeller le gouverneur
à l'Assemblée provinciale pour répondre à leurs questions. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Dans son discours bilan, le gouverneur a souligné certaines réalisations à son actif dans les domaines tels que l'agriculture, pêche et élevage, la réhabilitation de certaines infrastructures. Néanmoins, le gouverneur reconnaît la persistance de l'insécurité et l'activisme des groupes armés. Il justifie certains échecs par la situation sanitaire qui a fait chuter les recettes de la province. Caroline Zanzoukasivita, gouverneur.
Avant Covid, nous atteignions facilement 1 million de dollars. Après Covid, on est à moins de 1 milliard de francs congolais.
Si l'activisme des groupes armés continue de freiner l'arrivée des investisseurs dans la province, la non-rétrocession par Kinshasa de 40% des recettes pour le fonctionnement du gouvernement provincial a un impact réel. Certains projets n'ont pas pu être réalisés. Les fonctionnaires de l'administration provinciale et les députés provinciaux accusent des mois d'arriérés des salaires.
En dépit des histoires à la perception de certaines taxes, mais nous essayons de maintenir la maison. Je ne suis pas la seule province qui a des difficultés à terme d'assurer le paiement régulier des agents. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes en fonction des recettes que nous avons.
Pour les élus locaux, le bilan du gouverneur est jugé négatif. 8 députés de l'opposition ont lancé cette alerte ce mercredi à Goma. Prince Kiangi, l'un d'eux, est député élu du territoire de Walikale.
En dépit de tout ce que nous donnons comme proposition, le gouverneur n'agit toujours pas. Et on ne doit pas se cacher derrière le problème de Kinshasa pour dire parce qu'à Kinshasa, c'est important et donc à Goma souffrait. Non. Et quelqu'un qui voudrait savoir si nous pouvons en faire une motion, ce n'est pas interdit. Ou alors ce n'est pas exclu. Le contrôle parlementaire nous donne cette possibilité-là.
Dans les rues de Goma, les avis sont partagés. Certains jugent trop tôt d'évaluer les bilans d'un gouverneur qui a hérité d'une province avec une situation sécuritaire volatile et une crise sanitaire de l'épidémie d'Ebola. Fiston Keta est un jeune activiste à Goma.
Après cette pandémie, on pourra maintenant évaluer par rapport à sa prestation. Là, on saura s'il faut nous amener toutes les solutions, à part ce que son prédécesseur nous a décidé.
Par contre, d'autres pensent qu'il est possible d'installer déjà des bases pour ces projets de développement. Jacques Sinzaera, habitant de Goma.
On s'attendait à un gouverneur qui va dire non à la rétrocession, mais retenir à la source. La condition est claire. Il a promis qu'il va enlever toutes les barrières. Nous avons encore des barrières Beni Butembo. Aujourd'hui, il y a la tracasserie qui continue. Un gouverneur qui fait payer sa population une taxe de tourisme. Ce que nous, on ne va pas attendre même ces 4 ans.
En RDC, les budgets des provinces dépendent à 80% des financements provenant de Kinshasa, comme le prévoit la Constitution. Mais cette année, le pouvoir central n'a pas donné à 26 provinces des sommes nécessaires pour leur fonctionnement. Par exemple, au Nord Kivu, le gouverneur dit n'avoir reçu que l'équivalent des 3 mois de fonctionnement. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Gabon est entré dans le déconfinement progressif. Le gouvernement a annoncé cette semaine un plan d'allègement des restrictions imposées sur l'ensemble du territoire depuis l'apparition de la pandémie du COVID-19 en mars dernier. Pour cette première phase, les transports, l'hôtellerie, les universités et les écoles sont autorisés à reprendre du service. Pour les lycées, la reprise est réservée exclusivement aux élèves des classes de terminale. Les classes intermédiaires sont de facto en vacances. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
La cruche Mongolu-David, enseignant d'histoire-géo dans un lycée public de Libreville, est soulagée par la décision gouvernementale annonçant la reprise des cours dans les semaines à venir.
Les enfants nous ont quand même manqué. Avec quand même des petits liens qui sont tissés avec nos enfants. Et on est plus ou moins motivés à les accompagner vers l'examen. C'est vrai qu'entre-temps, il y a quelque peu la paresse qui s'est installée, mais on trouvera l'effort qu'il faut pour les accompagner au mieux.
Selon les autorités gabonaises, le retour à l'école concerne exclusivement les classes de terminale. Une bonne nouvelle pour Meyo Stécy, déjà préparé à affronter son examen.
Je suis prête parce que je me suis préparée. Je suivais des cours à la première chaîne. Et puis, je m'exerçais aussi avec les TD que les professeurs nous avaient remis. J'ai aussi regardé les anciennes corrections et les précédents cours.
Du côté des parents d'élèves, le doute subsiste quant à l'efficacité des programmes scolaires alternatifs mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pendant le confinement. Julien Niaré est parent d'élèves.
Nous, encore à Libreville, on arrive à se débrouiller. Mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont même pas accès à Internet, on fait comment ? Hein? Quand on sait que déjà la plupart des cybercafés sont fermés, ce qui permettait aux enfants d'aller se connecter. Donc le gouvernement, comme d'habitude, hein, ce que je dis n'engage que moi, met toujours la charrue avant les bœufs.
Ce calendrier qui prévoit la rentrée au 20 juillet avec à la clé le bac en août est aussi contesté par le syndicat de l'éducation nationale. Le Sénat de Fridolin Vemessa souhaite une organisation de la reprise des cours qui tienne compte des précautions sanitaires à l'intérieur des établissements scolaires.
Parce qu'aujourd'hui, si on retarde les élèves, surtout ceux des classes d'examen, une année de plus, je crois que ce sera une année de trop. Donc nous devons tout faire, même si la pandémie dure, mais nous pouvons envisager effectivement reprendre les cours, même au mois d'août, même au mois de septembre, pour décaler la rentrée 2021-2022. Donc nous pouvons valablement réfléchir sur la question.
Le gouvernement est formel. La rentrée se fera dans le strict respect des conditions d'hygiène imposées par le ministère de la Santé, ainsi que le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, à savoir la distanciation physique qui passera par la subdivision des classes, la désinfection systématique des salles de classe et la distribution des gels hydroalcooliques et les masques. Libreville, Ismaël Obionzi pour VOA Afrique.
La Guinée équatoriale a suspendu les travaux de construction d'un mur le long de sa frontière avec le Cameroun, a affirmé le ministre camerounais de la Défense après une rencontre avec son homologue équato-guinéen. Les deux parties ont convenu une fois de plus de retirer leurs troupes de la frontière litigieuse après des affrontements qui ont fait au moins 7 morts. Le mois dernier, un accord de retrait des forces n'a pas été respecté et certains commerçants frontaliers sont sceptiques quant à l'application de ce dernier pacte. Reportage de Moki Edwin Kinzega à Yaoundé, repris ici par Lionel Gahima.
Après une deuxième journée de discussion à huis clos au Cameroun, le ministre de la Défense de la Guinée équatoriale, Leandro Bekale Nkongo, a déclaré que les deux parties ont convenu de mettre de côté leurs divergences. Il a annoncé que la Guinée équatoriale suspendrait la construction du mur frontalier qui, selon le gouvernement camerounais, viole son territoire.
Ce que nous souhaitons comme changement, c'est la consolidation de l'entente entre nos deux armées. Parce qu'ils ont des combats communs, par exemple contre la piraterie, contre le dépouillement, le pillage des populations. Notre souhait est que le soldat équato-guinéen se sente chez lui au Cameroun et que le soldat camerounais se sente chez lui en Guinée équatoriale.
Leandro Bekale Nkongo a ajouté que le Cameroun et la Guinée équatoriale voisine ont besoin l'un de l'autre pour leur sécurité et leur développement. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, a ordonné la construction du mur frontalier en 2019 pour empêcher les Camerounais et les Africains de l'Ouest d'entrer illégalement dans son pays. Le Cameroun a, de son côté, déployé son armée pour mettre fin à ce qu'il a appelé une intrusion de bornes frontières, entraînant des conflits armés et des pertes humaines. Un accord au début du mois de juin pour retirer les troupes et délimiter la frontière a échoué. Le Cameroun affirme qu'au moins 7 civils ont été tués dans des affrontements qui ont suivi dans la ville de Kai aussi, dans le sud. Le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, affirme que les deux parties sont fermement résolues à mettre un terme à la tension.
Un pays frère, ami, je ne veux pas citer les liens que nous avons, ils sont nombreux, ils sont historiques, ils sont culturels, ils sont sociologiques, ils sont géographiques.
Malgré cette bonne volonté affichée, les commerçants le long de la frontière ne sont pas convaincus. Angelica Amende, une Camerounaise de 40 ans, achète du vin de Guinée équatoriale pour le revendre au Cameroun.
Tous les jours, les deux présidents du Cameroun et de Guinée équatoriale disent qu'on va résoudre ça. Et tous les temps, ça continue. Il y a les militaires, il y a les polices là-bas. Ça ne va pas. On a tué 7 personnes aux frontières et rien ne passe. Il faut que les deux présidents cherchent à résoudre le problème.
La Guinée équatoriale a souvent accusé le Cameroun de ne pas en faire assez pour empêcher ses citoyens et des ressortissants ouest-africains de franchir la frontière illégalement. En 2017, la Guinée équatoriale a fermé sa frontière avec le Cameroun pendant 6 mois après que les autorités ont arrêté des étrangers lourdement armés et les ont accusés de comploter pour renverser le régime au Obiang. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont rejoint en 2017 quatre autres États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour lever les exigences de visa. Maintenant, presque tous les pays membres de la CEMAC accusent la Guinée équatoriale de traîner les pieds concernant la libre circulation de biens et des personnes.